Radio Libertaire 89.4, nous sommes sur les Amis d'Orwell et aujourd'hui nous allons parler de la situation des Roms en France. Et ben, nous sommes aujourd'hui en compagnie de...
Seigneur Millet
et Mitko.
Et vous êtes à la Voix des Roms.
Oui.
Et ben, avant de démarrer, vous pouvez nous présenter la Voix des Roms.
Alors la Voix des Roms, c'est une association qu'on a créée en 2005. Entre un groupe d'amis, étudiants, chercheurs, universitaires roms. Et depuis 2005, l'association existe, elle mène des activités diverses et variées, notamment de sensibilisation et d'information sur les roms et parfois aussi des actions un peu plus musclées, on va dire, d'accompagnement, d'action, d'occupation, etc.
Tu veux nous en dire un peu plus?
Disons qu'au départ, on a créé l'association pour travailler ensemble sur la sensibilisation et sur l'information du public sur des questions de qui sont les Roms, quelle est notre culture, qu'est-ce qui nous caractérise, quel est notre apport aux sociétés dans lesquelles on vit, etc. Puis, la situation politique étant ce qu'elle est, on a été obligé aussi, parfois, et un peu trop souvent même, d'aller nous battre avec des mairies, faire des occupations de salles de réunion du conseil municipal, Mitko qui rigole, d'occuper aussi des squats, des terrains, voilà.
Parce qu'en fait, nous, on vous invite parce qu'on a été quand même bien sensibilisés, enfin, comme tout le monde, à l'été 2010, quand M. Sarkozy, suite à un fait divers, stigmatisait toute la population rome. Alors, nous qui ne sommes pas roms, ça nous a choqués, mais vous, comment vous avez vécu cette agression, si on peut dire.
Rassurez-vous, tout va bien. Et je tiens d'ailleurs, sur les ondes de Radio Libertaire, à remercier très chaleureusement messieurs Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Pierre Lelouch aussi, au passage, même s'il était un peu plus en arrière-scène, parce que ça a permis à beaucoup de gens de prendre conscience qu'il y a des problèmes. Et qu'il y a un problème qui ne concerne pas les Roms seuls, d'ailleurs. On voit ça plus clairement, là, sur les Roms, mais ce sont des problèmes qui concernent beaucoup plus de monde que ça. Et quoi vous dire ? Matériellement, la situation n'a pas beaucoup changé depuis l'été 2010. C'est qu'ils ont parlé de quoi ? Ils ont parlé de guerre contre la criminalité, d'expulsion de terrain, d'expulsion du territoire français. Ça, c'était quelque chose qui existait avant, qui existait pendant et qui existe toujours aujourd'hui, après. Il n'y a pas eu de gros changements factuels.
Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à évacuer pas mal de camps quand même, non ?
C'était le cas avant. Hein.
C'était le cas avant.
Il y a eu peut-être un tout petit peu d'accélération, mais c'était pas quelque chose de spectaculaire comme changement. Ce qui a changé et qui est au moins aussi grave que aurait été une intensification des actions violentes, des expulsions des Roms, c'est le changement. L'abandon des tabous. Il y a des tabous qui tombent et le gouvernement adopte très clairement un discours qui est très clairement raciste. Parce que quand on dit on s'attaque aux Roms et aux gens du voyage, je sais pas moi, j'ai des connaissances d'histoire peut-être un peu limitées, mais d'après ce que je sais, la dernière fois que le gouvernement français, que le pouvoir français, on va dire, avait une grille de lecture pareille, je crois que c'était dans...
une période très noire.
Voilà. Donc après-guerre, il n'y a pas eu une politique comme celle-là, une politique répressive à visée ethnique.
Et peut-être qu'on pourrait rentrer plus avant dans toutes les lois donc, qui encadrent les Roms en France, puisque tu dis qu'avant c'était déjà comme ça. Donc, à quelle loi vous êtes soumis On a parlé de carnet, vous êtes obligé de déclarer
Oui, alors c'est un peu compliqué comme problématique, parce que en fait, en la Troisième République, en 1912... elle a institué un régime spécial pour ce qu'elle qualifiait de nomades. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'en France, il n'y a pas de désignation ethnique, il n'y a pas de minorité ethnique en France. Bon, ça, c'est un très beau principe. du moins à l'extérieur, mais son vrai contenu et ses interprétations dans les politiques réelles, c'est autre chose. Et effectivement, depuis très longtemps en France, on a tapé les bohémiens, les Romanichel, etc. Et donc, la Troisième République, en 1912, elle adopte une loi qui concernait les nomades, mais les nomades en question n'étaient autres que les Roms en France. Donc, institution d'un carnet anthropométrique obligatoire pour tous les nomades. C'est le premier document d'identité en France. La carte d'identité vient après. Et d'ailleurs,
la période noire dont on a...
Voilà. Et la carte d'identité s'inspire du carnet anthropométrique, mais c'est une version plus light de documents. Le carnet anthropométrique, il contenait les empreintes digitales, photos, faces et profils, signes particuliers, mensurations de dimensions de la tête, du visage, plein de choses comme ça. Et ça, c'est une loi donc, qui a permis le fichage d'abord des Roms en France, qui a servi à partir de avril 1940 d'abord à les assigner à résidence, donc sous République toujours, avant l'occupation, puis après ce fichier a servi à les mettre dans des camps d'internement, et voilà l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, la loi change en 1969, on remplace les carnets anthropométriques par des différents titres de circulation, toujours obligatoires et toujours stigmatisants, qui doivent être visés à des échéances régulières. Pour le plus fréquent, c'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois, le détenteur d'un carnet de circulation doit se présenter à la police ou à la gendarmerie pour faire viser ce fameux carnet, qui est un véritable passeport intérieur. C'est du contrôle en continu. Alors voilà pour ce qui est de la loi, on va dire. Sur les Roms, c'est une population très diverse, et donc on relève pas forcément des mêmes lois. C'est-à-dire que ce que j'ai décrit jusque maintenant s'applique aujourd'hui à ce que l'administration n'appelle plus nomades, comme c'était le cas au début du XXe siècle, mais gens du voyage. Parce qu'il n'y a pas de minorité, ni d'ailleurs de nuages de Tchernobyl en France.
Mais il y a aussi Rome.
Et les...
Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça recouvre les mêmes réalités?
Alors, il y a une origine commune, il y a une langue commune entre les Roms qui viennent de pays divers et à des périodes diverses de l'histoire en France, et ceux qui sont venus parmi les premiers depuis le XVe siècle, depuis le tout début du XVe siècle. Donc il y a des éléments d'une identité commune qui tiennent essentiellement à la langue romani, qui est soit une langue toujours en utilisation, qu'on parle, soit un souvenir, une référence, en fait. Une référence identitaire, le romani comme la langue des anciens, du grand-père qui le parlait, etc. Ensuite, sur quant au statut administratif, on ne relève pas du même statut administratif, ce qui est logique, puisque les gens du voyage, entre guillemets, ce sont des citoyens français, bien que, dont en réalité, ils n'ont pas les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen français. Le carnet entre le carnet lapsus oui. Intéressant hein, le carnet de circulation étant la concrétisation de ce statut particulier, et puis on a des Roms qui ont le statut de réfugié politique, on a des Roms qui ont des cartes de séjour d'immigrés de 1 an ou de 10 ans ou de cartes de résident, et il y a un petit nombre, essentiellement de Roumanie et de Bulgarie, mais vraiment un tout petit nombre, ça, on va dire entre 10 et 15 000, sur un ensemble de 500 000,
500 000.
Voilà, l'ensemble des Roms en France, ça fait environ 500 000. Et sur ces 500 000, il y a environ 10-15 000 qui sont des citoyens roumains et bulgares dans une situation de précarité en France, précarité qui est avant tout juridique. C'est-à-dire que leur statut administratif est précaire. Ils sont citoyens européens, donc ils sont libres de circuler à l'intérieur de l'Union européenne. Mais en tant que Roumains et Bulgares, non pas en tant que Roms, en tant que Roumains et Bulgares, ils n'ont pas un accès libre au travail en France. Ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit de séjour acquis, parce qu'ils sont dans cette période transitoire pendant laquelle, pour résider en France plus de 3 mois, il faut justifier de ressources. Et qui dit ressources, dit fiche de paye, même une fiche de paye fausse d'ailleurs.
Eux n'ont pas le droit de travailler.
Eux, ils n'ont pas le droit de travailler, ou plutôt leur droit.
En tant que citoyens européens, entre guillemets.
Mais des nouveaux, des trop nouveaux. Donc, il y a cette période transitoire qui court jusqu'au 1er janvier 2014, pendant laquelle la France a décidé de mettre des barrières. Les Roumains et les Bulgares ne peuvent travailler en France que après avoir eu une autorisation de travail ou une carte de séjour, en fait, à la préfecture, qui s'obtient après constitution d'un dossier. Il faut justifier d'une promesse d'embauche dans un métier sur 150 métiers qui sont listés dans une circulaire adoptée à la veille de l'adhésion à l'Union européenne de ces deux pays, et qui, en fait, ils relèvent du même statut que n'importe quel sans-papier. Du point de vue du droit de séjour, ils sont comme les sans-papiers, à la différence près qu'il n'y a pas de... On ne fait pas de filtrage à la frontière. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir librement, contrairement à un Marocain ou un Algérien, par exemple, qui doit présenter un visa, etc. Ça n'existe pas pour les Roumains et les Bulgares, mais pour le séjour, pour avoir une carte de séjour, c'est la même procédure que pour n'importe quel sans-papier.
Parce que parallèlement à ce carnet-là, et aux règles encadrant, il y a la question de l'habitat et du peuplement, et qui est l'autre encadrement en fait, de la population.
Sur le logement, c'est encore c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que tout le monde en fait focalise sur cette question-là. Alors, moi, je citerai le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui dit qu'il y a en France 4 millions de mal logés. Tout à l'heure, j'ai parlé de 10 000 Roms, Roumains et Bulgares. Je ne sais pas si ces 10 000 Roms, Roumains et Bulgares ont été comptés par la Fondation Abbé Pierre dans les 4 millions ou pas. Mais si on compare 10 000 à 4 millions... 4 millions, ça pèse beaucoup plus lourd. Donc, la question du mal-logement ou du non-logement, c'est une question qui concerne beaucoup trop de monde en France. Les 10 000 en question, les 10 000 Roms en question, bon, ils sont dans cette situation de précarité aussi qui part de leur statut administratif et qui aboutit à la précarité du logement, de l'habitat alternatif qui est qualifié souvent, à mon sens, à tort d'ailleurs, de bidonville, parce que franchement, c'est pas vraiment des bidonvilles, ce qu'on voit autour de Paris. Bon, les bidonvilles, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus dur. Là, on a de l'habitat autoconstruit, avec des matériaux récupération à droite et à gauche, des planches. Bon, les spécialistes ou les acteurs économiques, je les appellerais moi plutôt, de l'insertion sociale, ils prennent cet angle-là d'action, c'est-à-dire l'insertion par le logement. Non, non. Ces gens sont en France, dans des cabanes, et ils récupèrent de la ferraille, des vêtements qu'ils revendent avec les bifins, etc. Alors que, chez eux, ils ont des maisons. Ils ne sont pas... ils n'ont pas vécu dans la jungle avant. La plupart ont des maisons, qui sont des maisons, bon, comme toutes les maisons du village dans lequel ils habitent, ni meilleures ni pires. Maintenant, si en France, ils sont dans des baraques construites comme ça, c'est parce que la maison qu'ils ont en Roumanie ou en Bulgarie, ben, ça ne suffit pas pour vivre. Et j'entends souvent d'ailleurs la phrase « je ne vais pas manger les murs de la maison ». Il faut bien manger, il faut bien assurer sa vie. Et c'est pour ça qu'ils viennent en France.
Ils sont complètement coincés, en fait.
Oui. Oui, mais les spécialistes du social, qui sont des acteurs économiques, hein, vraiment. Qui sont des je ne sais pas comment les appeler, ces gens-là, parce qu'une entreprise, si elle a un bilan financier négatif, si elle a un bilan économique négatif, ben elle fait faillite, elle disparaît.
C'est les travailleurs sociaux, non ?
Voilà, les travailleurs sociaux, les structures qui les emploient, en fait. Le problème, ce n'est pas les travailleurs sociaux. D'ailleurs, les travailleurs sociaux, souvent, ils se sentent très mal, hein, les pauvres, parce qu'ils sont censés accompagner vers l'emploi des personnes qui n'ont pas le droit de travailler. Alors, comment le travailleur social, il ne peut pas résoudre la question des papiers. Mais les structures... L'ALJ 93, pour ne pas la nommer, ou le Pactarim 93.
Explique-nous, parce que les villages d'insertion, en fait, on ne connaît pas trop l'idée, où est-ce qu'il y en a, qu'est-ce que ça représente
Alors, les villages d'insertion, c'est un concept qui est né en 2006, avec l'entrée à l'Union européenne de la Roumanie et de la Bulgarie. On ne peut plus expulser comme avant, on continue à expulser, mais il faut innover. Il faut innover parce que les gens ont changé de statut. Ces gens qu'on expulse, ben, ils sont désormais citoyens européens, donc voilà, on fait un peu de la façade, et la façade consiste à dire « la France ne peut pas tout accueillir, on va voir ce qu'on peut faire à petite échelle, c'est-à-dire que des villes, avec la préfecture, signent des conventions de maîtrise d'œuvres urbaines et sociales, les fameuses MOUS, dont l'objet est l'insertion par le logement, notamment, d'un certain nombre de Roms. Alors, on va sur un terrain où il y a 300 Roms et on leur dit, on fait une enquête sociale. Une enquête sociale, donc les gens passent des entretiens et on sélectionne un certain nombre de personnes, de familles, en fait, qui seront prises en charge dans le cadre de cette fameuse MOUS. Et à tous les coups, c'est 80 personnes. C'est des cases, en fait, qui sont décidées comme ça. Et on les met dans des caravanes, dans un premier temps, puis après dans des bungalows. Bungalow, en Roumanie, ça veut dire diabolique, d'ailleurs. On les met dans des bungalows, dans des zones un peu éloignées des villes, avec des murs très hauts, avec des gardiens qui empêchent les entrées des personnes extérieures.
Une sorte de camp, en fait.
Voilà. Et 75% du budget de fonctionnement d'un village d'insertion, 75% du budget de fonctionnement est alloué au gardiennage et à la surveillance. C'est comme ça qu'on fait de l'insertion en France avec des familles venant de l'Union européenne.
Mais c'est purement symbolique et politique, ou ça représente vraiment... Il y a combien de villages d'insertion, c'est uniquement des expériences pilotes pour dire voilà, on fait...
Ce sont des expériences pilote que on ne voudrait pas voir
se développer.
Parce que, force est de constater, mais Mitko, il en parlera tout à l'heure, maintenant, en Ile-de-France, il y en a 5. Ça a commencé à Aubervilliers, il y a eu Bagnolet, Saint-Denis, Saint-Ouen, Montreuil. Et il y a aussi, dans le nord, autour de Lille, mais là, je ne connais pas le nombre et je ne connais pas non plus la manière dont ça fonctionne réellement, si c'est le même modèle ou un peu différent. D'après ce que je vois de loin, ça me semble être assez le même schéma de fonctionnement.
Apparemment, c'est un échec.
C'est un échec, mais...
C'est un mauvais exemple.
Oui, sauf que... Qui dit la vérité, en fait, c'est une question de pouvoir. C'est-à-dire que l'État, donc la préfecture, mandate telle association ou entreprise sociale, je ne sais pas le statut bizarre qu'elles ont, à faire une enquête sociale et ensuite à gérer un village d'insertion. Eux, ils y vont avec leurs gardiens, avec leurs travailleurs sociaux qui vont voir les gens une ou deux fois par semaine. Les gens qui n'ont pas le droit de travailler, la préfecture, au lieu de filer des cartes de séjour aux gens, de dire, bon, ben voilà, vous avez le droit de travailler, maintenant, essayez de trouver du travail. Elles refusent, c'est-à-dire qu'ils doivent passer par le schmilblick de droit commun. Super difficile à obtenir une carte de séjour. Et en même temps, on paye des gardiens et des assistantes sociales qui ne servent à rien parce qu'on ne voit pas ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils font là. Et l'actualité maintenant, et c'est Mitko qui va en parler, c'est que à Bagnolet, ils vont fermer. Ils vont fermer le village d'insertion, sortir les gens dehors parce qu'il n'y a plus d'argent pour les professionnels.
Ça, c'est un village qui existe depuis quand, en fait ?
C'est un village qui existe depuis 2007, à mois de juillet, je crois. Et c'était pour 3 ans. Et on a resté là-bas 4, parce qu'ils ont allongé à 1 an de plus, parce qu'à 1 an, on a resté sans assistance sociale, sans bouger. Et maintenant, c'est la fin. Et hier, on a reçu les lettres. Ils nous envoient à tous les gens, à tout le monde voilà, qui habite au village. Et il y a 29 personnes qui devraient quitter et 5 familles qui vont être logées.
Et ça fait combien de temps que tu étais dans ce village ? Depuis le début ?
Oui, je suis là-bas depuis le début.
Donc là, tu risques d'être expulsé ?
Oui, en fait, il nous a donné 15 jours pour qu'on quitte le village.
Mais tu dois trouver un travail d'ici là.
Ben, en fait, ceux qui n'ont pas de travail, qu'ils n'ont pas trouvé jusqu'à maintenant, ils devraient quitter. Et j'ai déjà trouvé et je vais essayer de faire quelque chose. J'ai quelques jours, je ne sais pas. 15 jours à peu près pour me battre, on verra qu'est-ce que ça va donner.
Il y a une riposte collective au niveau du village, comment ça se... où c'est chacun essaye de trouver. C'est une réalité que je ne connais pas du tout. Donc,
Chacun, en fait, chacun essaie de trouver le travail. Il y a des assistants sociaux, mais ils ne peuvent pas nous aider trop. Ils sont là-bas juste pour, en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas trop. Ils sont là-bas pour remplir nos papiers. Et il ne peut pas trouver du travail, les gens là-bas. Et c'est nous-mêmes qu'on trouve le travail tout seul. Et c'est un peu dur parce que les employeurs, ils ne veulent pas nous embaucher parce que pour embaucher quelqu'un, il faut payer une taxe. C'était de 900, maintenant, je ne sais pas, peut-être ils sont baissés là.
Mais là, si tu as trouvé du boulot demain, tu es sûr de rester
Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. J'ai déjà trouvé du travail aujourd'hui, j'ai signé tout ça. Je devrais parler demain avec les assistants, la mairie, c'est eux qui décident. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider.
Ce qui est intéressant dans le cas de Bagnolet, c'est que au départ, il y a eu un incendie en 2004 et la mairie, avec la pression de Roms et d'un comité de soutien qui s'était formé sur place, a ouvert un ancien centre de loisirs désaffecté qui s'appelait le château de l'Étang et s'est engagé vis-à-vis de toutes ces personnes qui étaient là ce soir d'incendie en décembre 2004, s'est engagé à les accompagner, à leur trouver du logement, etc. Et ils entrent dans ce centre, dans le château de l'Étang, avec l'idée qu'ils seraient là pour quelques jours. Et ils sont restés jusqu'en juillet 2007. Donc, ça fait 2005, 2006, 2 ans et demi, ça faisait quasiment 3 ans, en fait, ils étaient là sans assistante sociale, sans gardien, avec des réunions qu'ils faisaient à la mairie de temps en temps pour maintenir et pour voir comment cet engagement politique allait se concrétiser. Mais autrement, la gestion du lieu, c'était de l'autogestion. C'était eux-mêmes, les occupants eux-mêmes, qui s'organisaient pour la vie quotidienne, en commun. Voilà. Et ce n'était pas simple parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Hein. C'était assez petit pour tout le monde. Mais ça allait. En juillet 2007, on apprend, alors que le projet était terminé, c'est-à-dire que, après moult options envisagées, plus ou moins discutées à la mairie, il a été décidé de mettre des Algeco sur un terrain qui appartient à la ville. Très bien. L'installation faite. On ne comprend pas pourquoi, en fait, la ville demande aussi le soutien de la préfecture. La préfecture qui, évidemment, répond présent, avec la condition qu'il devrait y avoir une enquête sociale et mise en place d'une mousse. Et donc, là, on a l'engagement politique du maire de Bagnolet, Marc Everbeck, qui dit on vous connaît tous, vous êtes là tous. Et depuis 3 ans, bah, c'était des bagnoletés, quoi. Et donc, on vous prendra en considération tous. À un moment donné, cet engagement politique, eh ben, il est mis à mal par l'intervention financière de la préfecture. Et dans un moment d'énervement, on avait pris l'habitude d'aller souvent à la mairie, parfois parce qu'il y avait une réunion de prévu, parfois parce qu'il n'y avait pas de réunion de prévu, et donc on y allait, on entrait dedans, et puis la réunion se faisait quand même. Et là, sur un coup d'énervement, Marc Everbeck, le maire, il dit « Bon, ben, écoutez, moi, je ne peux pas faire autre chose, c'est comme ça. L'État a filé de l'argent à la Fondation Abbé Pierre pour résoudre la question des Tziganes, et c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas faire autre chose. » C'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux de voir comment un élu local qui est, bon, ben, il est proche de ses administrés, qui sont en même temps ceux qui l'ont hissé au pouvoir, eh ben, il est mis dans cette position-là. Pour 3 sous, on va dire. Pour 3 sous, et tout tombe. Alors, juillet 2007, il s'installe sur ses Algeco, mais la date qui compte pour la mousse, c'est août 2008. C'est un an après. Parce que c'est un an après que les assistantes sociales commencent le travail. Et c'est à ce moment-là qu'on considère le projet comme étant commencé. Donc on ne considère pas les gens, ce que dans le cadre logique des projets on appelle les bénéficiaires, ce n'est pas eux qu'on considère, c'est les intervenants qu'on considère. Et le projet commence quand les intervenants arrivent, quand les assistantes sociales arrivent en août 2008, et donc ça court jusqu'en juillet 2011. Suite à quoi, tout le monde doit partir. Alors, il y a cinq familles de relogés.
C'est même pas juillet, c'est juin qui fait. En fait, on a signé un contrat pour jusqu'à juillet, jusqu'au mois de juillet. Et il ferme mois de juin.
Et les 5 familles sont relogées où?
Bah, c'est la mairie qui va trouver avec les associations, c'est eux qui savent.
J'espère que vous allez tous retrouver quelque chose.
Ça va être dur.
Surtout, moi j'espère que vous ne bougerez pas. Parce que ces conteneurs-là, ils ont été mis là pour vous. Vous êtes dedans. Ceux qui ont la chance d'aller dans de meilleures conditions, tant mieux. Ils vont dans des appartements s'ils sont mieux là-bas. Ceux qui n'ont pas autre chose, vous restez là.
Et le comité
ceux qui n'ont plus d'argent, ceux qui veulent être payés pour un travail qui est faux, qui n'a pas d'effet, bah ils partent. Vous n'avez pas de faux truc, vous avez un vrai logement et voilà, vous y restez.
Et il y a le comité de soutien à Bagnolet qui vous aide, qui est derrière vous
ou... Bon. Normalement, c'est que la mairie qui est
pactarine. Qui a pris cette décision, mais est-ce qu'il y a une mobilisation autour de vous sur Bagnolet, d'un comité de soutien?
Non, pour l'instant, il n'y a rien.
Il n'y a rien?
Non.
Il y a un comité de soutien qui se mobilise sur...
Ben, il y a un comité de soutien, il y avait un comité de soutien, mais en même temps... Il y a eu la période 2004-2007, qui était une période assez intense, avec des hauts et des bas, de lutte, en fait, pendant laquelle le comité de soutien était très, avait un caractère permanent. On avait des réunions régulières, toujours tout le monde ensemble au château de Laiton. Puis en 2007, avec l'arrivée de l'aide de l'État, n'est-ce pas? Eh bien, il y a...
Ça a divisé tout le monde.
Ça a divisé parce que ben, c'est toujours difficile, quoi. Il y avait ceux qui avaient été sélectionnés pour le village, et il y avait les autres qui sont partis à droite et à gauche. On n'avait plus accès aux gens. On ne pouvait plus se rencontrer, parce que dans le village, on ne pouvait plus entrer. Il y avait des gardiens qui nous empêchaient d'entrer. Donc ça, c'est... On est resté en contact comme ça, on se rencontre de temps en temps. L'autre jour, à Ivry, on s'était rencontrés. Mais aujourd'hui, j'ai eu deux coups de fil par des membres de l'ancien comité de soutien. Et il n'est pas impossible que dans les jours qui suivent, le groupe se reconstitue, peut-être avec d'autres personnes. Et que...
Voilà l'information qu'on voulait avoir.
Et on me signale en fait que les fameux acteurs bizarres qui interviennent dans les villages d'insertion, ce sont les mêmes. Pactarim 93, ALJ 93, Adoma dans certains, mais en ce qui concerne l'accompagnement social et la gestion locative, c'est Pactarim et ALJ. Donc, le premier village d'insertion dans l'histoire, c'était Aubervilliers. C'était fin 2006. Alors, on se demande pourquoi Bagnolet ? Qu'est-ce qu'il y a à Bagnolet de particulier ? Puisque Bagnolet, c'est plus récent. Et Aubervilliers, depuis 2006, ça fait 5 ans déjà. Et le dispositif est toujours en place.
Eh oui, obligé.
Voilà, donc on comprend pas. Enfin, on comprendra bientôt, on saura bientôt pourquoi.
C'est que si comme c'est le même gérant à Bagnolet et à Aubervilliers, et donc si ici ils n'ont plus d'argent pour payer les travailleurs, c'est que de l'autre côté il y aura le même problème.
Sauf si c'est des enveloppes différentes. Mais ça, de toute façon, dans la gestion... Mais tu n'en sais rien et nous n'en savons rien. On ne sait pas d'où l'argent vient, selon quel circuit, et où il arrive et pour combien de personnes.
Et sinon, il y a eu d'autres batailles à Ivry, à Montreuil. Je crois que... Tu disais tout à l'heure que vous aviez... Il n'y a pas que sur Bagnolet que vous êtes intervenu.
Bah, il y a eu... non, il y en a ailleurs. Il y a à Montreuil. On a dû... On a fait notre école de squatteurs à Montreuil. Des familles qui avaient été expulsées d'un terrain en face du Salon du Livre, du Palais de Congrès, où il y avait le Salon du Livre pour la jeunesse. Et qui sont restés sur le trottoir pendant un mois, en plein mois de novembre, il pleuvait. Ils étaient chassés par la police par la suite, sans aucune solution par la ville, si ce n'est un arrêté municipal de dératisation. Qui a permis à la police d'intervenir pour évacuer le trottoir sur lequel ils étaient. Madame Voinet avait signé un arrêté municipal de dératisation. Elle a osé. Franchement, bon, voilà.
Il y a eu des discours au début de son investiture qui étaient plutôt pour les Roms au début.
Oui, et en
dans
plus...
Dans ses discours, hein, je parle.
Même dans les actes, mais... La bonne volonté, sans le savoir, est plutôt un vice qu'autre chose. Elle voulait changer radicalement de politique par rapport à la municipalité avant le communiste. Bon. Et donc, elle a dit, on ne va plus expulser des Roms. Et on va en mettre en place des projets pour leur relogement, etc., pour leur intégration dans la ville. Bon, très bien. Ces subalternes l'élu en charge du dossier, son directeur de cabinet et une autre élue qui accompagnait plus ou moins le principal en charge de la question, ont eu droit à une formation complète et détaillée sur tout ce qu'il y avait d'erreur de fait à ce moment-là. On avait déjà les expériences d'Aubervilliers, de Saint-Denis et de Bagnolet. Et donc, on a dit très clairement, voilà les erreurs qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il convient de faire. Voilà pourquoi ça peut marcher. Voilà pourquoi ça peut marcher pour vous aussi, en tant que ville, municipalité écologiste, faisons quelque chose dans ce sens-là, avec des propositions très concrètes. On a eu droit à des applaudissements toujours gratuites, celles-là, et d'autres ont eu droit à des subventions pour mettre en place à peu près le même système, à la différence près qu'à Montreuil, il y a environ 350 personnes qui sont mises, je n'aime pas la prise en charge, parce qu'ils n'ont besoin de personne pour être prise en charge, mais qui sont mis dans soit des villages d'insertion, soit dans un projet qui est guère différent, en fait, où ils sont dans des caravanes, mais il n'y a pas de gardien, il y a une famille rom qui fait office de médiateur avec la ville, et voilà comment ça tourne, mais à part le nombre, il n'y a pas une grande différence. Et puis à Saint-Denis aussi, il y a eu des expulsions, on s'est bagarré un peu, on nous a envoyé quelques Robocop, enfin environ 200 CRS pour une soixantaine de personnes, en comptant bien les gamins de 2-3 ans. Puis bon, ben, le dialogue a été entamé quand même avec la ville et le Hanoul, qui était le plus ancien terrain où habitaient des Roms roumains à Saint-Denis, ben, il est tombé le 6 juillet 2010 et le 4 août, après toute cette série de péripéties, ben, on a quand même réussi à occuper quelques terrains qui appartiennent à la ville, qui doivent être libérés eux aussi courant juillet, parce qu'il y a des projets de construction sur place, mais pour les familles, ils rentrent sur d'autres terrains et un projet est en cours d'élaboration pour leur relogement un peu plus pérenne. Et hier, il y avait une visite d'une délégation de la Commission européenne sur place. Aujourd'hui, ils sont allés dans le Val-de-Marne pour voir ce qui se fait et pour filer des sous. Alors, des sous, il y en a besoin, mais on les a quand même bien mis en garde pour ne pas financer des camps de réclusion, quoi. Et ça, de toute façon, on l'avait fait déjà avant. Ils sont au courant. Demain, ils ne pourront pas dire « on ne savait pas ». On leur a envoyé suffisamment d'informations pour leur dire « voilà ce que sont les villages d'insertion. Ce sont réellement des lieux de réclusion, des véritables ghettos gardiennés. Mais c'est même pas des ghettos, parce que le ghetto a un fonctionnement interne. » Là, il n'y a pas de fonctionnement interne, c'est toujours quelque chose d'imposé par l'extérieur. Et on verra ce que ça donne, les nouvelles initiatives qu'on prend à Saint-Denis. C'est les familles elles-mêmes, elles sont très impliquées dans la suite, enfin, dans la suite du projet, dans des habitats qui vont être autoconstruits et une quinzaine ou une vingtaine de personnes vont être embauchées dans une entreprise expérimentale sur ça, sur la construction d'habitats alternatifs, modulaires. Une participation active aussi dans la vie du quartier, des activités avec les enfants, avec les jeunes, etc.
Et quels sont les liens, en fait ? Il y a les Roms, les Bulgares. Quels sont les liens avec l'ensemble de la communauté gens du voyage, Rome. Est-ce qu'il y a un soutien derrière par rapport à...
Il n'y a pas vraiment de contact. Il y a très très peu de contact. C'est exceptionnel quand il y a du contact. Alors, généralement, quand on est cousin et cousin un peu lointain, on se distingue, on se tient à distance, etc. Mais quand il y a du contact, ça se passe bien. Moi, j'ai vu à Montreuil, par exemple, des Roms roumains et des Monouches aller faire de la ferraille ensemble. Et bon, voilà. Parfois, ça se passe pas bien. Et il est quand même étrange de voir que quand ça ne se passe pas bien, il y a toujours un intermédiaire. Ce n'est pas comme dans le cas où le Rom roumain va avec le Monouche français faire de la ferraille parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils habitent l'un de l'autre côté de la rue, l'autre de l'autre côté de la rue, dans le même quartier. Là où ça se passe mal, c'est à Nantes, par exemple, il y a quelques années, des Monouches ont brûlé quelques caravanes ou bungalows que les autorités avaient posé d'autorité pour les Roms roumains sur l'emplacement qui avait été prévu pour une aire d'accueil pour les gens du voyage. Alors, comme connerie ou même comme perversité, on ne peut pas faire mieux. Je ne sais pas si c'est de la connerie ou de la perversité ou les deux.
Mais à Nantes, il y a un immense camp à l'entrée de la ville. À Nantes, il y a tout un village à l'entrée de la ville de Rome. Et de...
Oui, je sais qu'il y a des choses, je ne suis pas allé récemment. Voir, mais c'était un lieu en fait qui avait été prévu pour une aire d'accueil. Alors, on peut le faire si on n'a pas d'autres endroits, on peut le faire, mais à condition de bien s'y prendre, de bien communiquer avec les gens, de bien expliquer les choses, de prendre la température, quitte à faire des pas en avant, des pas en arrière, selon aller par tâtonnement. Mais là, imposer le truc comme ça, bon, ben voilà, les gens s'énervent, ça se comprend. Ou alors, quand ils regardent à la télé des choses mirabolantes pour les Roumains, ben c'est évident que ça ne fait pas plaisir à un type qui attend exactement la même chose, qui est là depuis je ne sais pas combien de temps, dont le grand-père est mort à la guerre de 14-18, sous les drapeaux.
C'est dresser les uns contre les autres,
voilà. Ça se fait, malheureusement, ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Ne regardez plus la télé, quoi.
Bon, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Enfin, sûrement, il y a des choses qu'on a oubliées. Juste une dernière question là, comme ça, que je me posais, c'est-à-dire la voix des Roms, c'est deux R O M.
O M S.
Des fois, on voit Rome avec seulement un R. Comment expliquer ça? Enfin.
Alors, le mot Rome, ce n'est pas un mot de la langue française. Le mot Rome, c'est un emprunt que le français a fait à la langue romani. En français, on dit tzigane. On dit romanichel, on dit bohémien, bohémien, etc. Mais on ne dit pas Rome. Rome, c'est un emprunt qui a été fait au Romani. Quand une langue emprunte à une autre, elle adopte dans toute la mesure du possible l'orthographe de la langue à laquelle elle emprunte. Donc, si c'est du russe, évidemment, on ne va pas écrire en cyrillique. Mais le Romani, c'est une langue qui s'écrit en caractère latin. Et en Romani, on écrit avec deux R. Ça, c'est l'explication purement linguistique. Ensuite, il y a une explication technique, technologique, c'est que quand vous tapez sur Google Rome, vous tomberez sur tous les CD-ROM du monde, sur la mémoire des téléphones portables, toutes sortes de choses. Alors que Rome avec deux R, c'est les ROM. Troisième raison d'ordre politique, je sais que ça ne se fait pas trop à cette radio, mais le seul gouvernement qui a une vraie politique, et c'est un paradoxe d'ailleurs, mais le gouvernement roumain, le gouvernement central roumain, a une vraie politique à l'égard des minorités et des Roms en particulier. Et la langue romanie est enseignée dans les écoles en Roumanie. Pas dans toutes les écoles, mais dans beaucoup d'écoles. Il y a environ 30 000 élèves roms qui suivent l'école en bilingue, en roumain et en romanie. Et ils ont accepté ça, mais ils étaient, dans les années 90, ils étaient un peu embêtés parce qu'ils disaient Romanie, Roumanie, Rome, Roumain, ça va faire beaucoup de confusion. Et quand ils ont vu que ça s'écrivait avec deux R, ils ont dit, bon d'accord, comme ça, ça va mieux. Et donc, ça s'écrit avec deux R partout.
Eh bien, écoutez, merci d'être venu et on va suivre ce combat-là avec attention.
Merci pour votre invitation et à une prochaine fois.